Donc, ben merci. Je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui. Venant de communication, je me suis amusée à faire un petit peu un exercice de passage vers plus les études littéraires ou plus un domaine plus proche de vos préoccupations. Donc, ça va être des travaux que je mène sur une réflexion sur le big data d'un point de vue sémiotique. Je travaille entre autres avec d'autres professeurs pour essayer de comprendre le big data avec un économiste, un sociologue, un spécialiste de l'économie politique. Donc, différentes facettes, mais moi, c'est beaucoup la perspective sémiotique qui m'intéresse du big data. Et là, aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire une proposition, donc, qui va tourner autour de savoir, pouvons-nous considérer le big data comme une nouvelle forme de textualité? Mais bien sûr, j'ai compris que les midi-conférences, c'est aussi un lieu pour discuter. Donc, c'est une proposition, je la mets à l'épreuve et on discutera ensemble, voir si ça a du bon sens ou pas. Donc, voici ma proposition. Alors, qui va comme suit. Malgré la grande valeur de vérité accordée aux résultats issus des technologies du big data, la mise en données du monde, puis les résultats de l'automatisation du traitement de ces données grâce aux algorithmes, nous racontent une histoire, en partie fictionnelle, sur notre rapport au monde, fiction qui, en retour, produit la réalité. OK? Pour l'instant, c'est dense, j'en suis tout à fait consciente. Je vais prendre ma présentation pour vous la présenter, puis on va y revenir à la fin. Je vais vous donner un ou deux exemples de comment ça pourrait prendre forme. Et donc, pour bien comprendre où je me situe, je vais vous présenter un schéma. Certains l'ont peut-être déjà vu. Évidemment, il évolue vu que je continue à travailler sur le schéma. Et donc, ici, c'est une synthèse. Je vais essayer de vous présenter les principaux éléments pour bien comprendre où on pourrait situer cette nouvelle forme de textualité-là. Donc, évidemment, l'individu, nous sommes là et nous avons un ensemble d'appareillages technologiques, d'interfaces, de bidules informatiques à travers lesquels on communique, on interagit, bon, etc. Donc, on imagine très bien le cellulaire, la tablette, l'ordinateur, etc. De cet appareillage-là, nous produisons ce qu'on appelle les traces. Et là, je le mets entre guillemets parce que, évidemment, j'ai beaucoup critiqué l'usage du mot « trace » parce qu'il y a une espèce de rapport naturel qui est opéré avec l'utilisation du mot « trace », alors qu'évidemment, on n'est pas du tout dans un processus de naturalisation, malgré ce qu'on veut bien nous faire croire. Au contraire, selon moi, on est dans un rapport d'hyper-symbolisation. Qu'est-ce que j'entends? C'est qu'il y a une traduction du monde, il y a une traduction de nos actions qui est opérée en données numériques. Et que sont ultimement les données numériques? Bien, si on veut y aller rapidement, c'est une série de 0 et de 1. Et il n'y a rien de plus symbolique que le langage binaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le code pour être capable de produire du sens avec cette série de chiffres-là. Et donc, c'est de l'ordre du symbolique. Et je dis hyper symbolique parce qu'on est à une ère où il y a une numérisation de plus en plus grande et constante du monde en général, de nos actions. Et ça va en croissant et donc hyper est vraiment mis en excès. Donc, un ensemble d'actions qui ne laissaient pas de traces numériques à l'époque, bien, aujourd'hui, on laisse et donc de plus en plus, on laisse des traces, entre guillemets, de nos actions. Donc, un rapport d'hyper-symbolisation. De ces traces-là, on en fait ce qu'on a appelé le big data. Et là, je vais y aller rapidement aussi. Le big data, c'est bien sûr, oui, ces données massives-là, mais souvent, il est entendu aussi par un ensemble d'outils qui est lié pour traiter ces données-là. OK? Et le big data est souvent lié à ce qu'on appelle les 3V, 4V, 5V, dépendamment des auteurs. Donc, la vélocité, la vitesse, la variété, etc., de données massives. Donc, c'est vraiment l'idée de données massives qui bougent rapidement, qu'on peut croiser, qu'on peut traiter de manière là, massive. Donc, le big data. Le passage qui est fait de ces traces-là que l'on produit vers les big data, donc vers ces données-là, en est un de décontextualisation. C'est-à-dire qu'on va prendre certains éléments de nos actions sur le web, on va les traduire en données. Ces données-là vont être placées dans des bases de données qui sont décontextualisées, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'éléments contextuels qui ne sont pas liés aux données. D'ailleurs, une des tendances, c'est justement d'essayer de lier de plus en plus de données pour les contextualiser. Mais bien sûr, il va toujours nous manquer des données, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas captés par l'appareillage. Et donc, un ensemble d'éléments contextuels ne seront jamais liés aux données. Donc, elles sont décontextualisées. Elles sont placées dans ces grands, immenses bases de données. On parle même de fermes maintenant, des fermes de serveurs. Et donc, ces données-là sont latentes, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont en attente qu'il se passe quelque chose. Elles sont dites brutes, mais bien sûr, encore une fois, mis entre guillemets, parce que on sait qu'il n'y a pas de données brutes. Ce n'est pas comme des minéraux qu'on viendrait miner, malgré ce que l'on veut nous faire croire avec le data mining. Mais on nous dit que c'est des données brutes, comme ça, l'attente en attente d'un sens. OK? Nous, ce qu'on retient d'un point de vue sémiotique, c'est qu'elles sont décontextualisées et elles sont en attente. OK? Et à partir de ce moment-là, on va aller faire du data mining, on va aller chercher ces données-là, on va aller les récupérer un certain nombre selon certains critères qu'on va avoir déterminés, selon des questions ou des objectifs ou des outils, ou etc. Et donc, on va aller recontextualiser ces données. On va aller les reprendre. Pourquoi? Bien, pour en faire des indices sur quelque chose. OK? Et donc, par exemple, vous avez cliqué là, vous avez cliqué sur un film sur IMDb. Cette donnée-là peut être mise dans des bases de données, croisées, vendues à des tiers, etc., etc. Et donc, par exemple, Amazon peut être très intéressé à savoir que vous avez cliqué sur tel film pour vous proposer dans son système de recommandation ce film-là, par hasard, OK? Et donc, on va prendre cette donnée-là, supposons que vous avez cliqué sur ce film-là, on va la recontextualiser en disant, bien, vous pourriez être intéressé d'acheter ce film-là ou d'acheter le livre qui est issu de ce film-là quand vous naviguez sur Amazon. Donc, on en fait un rapport indiciaire parce que c'est un indice de qui vous êtes comme consommateur, qui vous pourriez être comme consommateur, OK? Donc, on recontextualise dans un rapport indiciaire pour en faire une information. Donc, ça nous informe, par exemple, sur qui vous êtes comme consommateur. Là, je parle de consommateur parce qu'évidemment, la majeure partie de l'usage qui est fait des données présentement, c'est dans un contexte néolibéral et on l'exploite d'un point de vue monétaire, mais en recherche, on le fait aussi. Puis dans d'autres domaines, on le fait aussi. Mais c'est sûr que c'est là que la majorité de l'exploitation de ce type de données-là est faite. Donc, on en fait une information. De cette information-là, on va le traiter en influx, ça va devenir un influx électronique, électrique, dépendamment, là. Pourquoi? Ben, c'est qu'à partir du moment où on sait que vous avez cliqué sur ce film-là, que vous aimez ce film-là, ben là, il va falloir faire quelque chose avec ça, il va falloir le transformer en une information qui va être renvoyée. Mais avant de faire ce lien-là, il y a évidemment un rapport de désymbolisation. On désymbolise cette donnée-là qui était traitée à partir d'un encodage pour en faire un influx qui va devenir tout simplement un rapport signalétique. On en fait un signal, ça va être ce qui va s'afficher sur, ultimement, votre interface, votre appareillage, OK? Donc, on vous envoie la pub, on vous envoie la recommandation, etc. Et donc, on est vraiment dans un rapport de signal, plus rien de symbolique. Et donc, si on regardait le schéma dans une présentation que j'avais faite, Bertrand m'avait invité, je faisais une lecture de ce schéma-là plus d'un point de vue politique. Donc, il y a vraiment une dépolitisation à travers ce type de rapport-là. On évacue le symbolique, donc il n'y a plus de négociation sociale qui est possible à partir du moment où on est dans un contexte de traces et signaux, OK? Donc, là, ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire, bien, est-ce que là, il y aurait lieu de penser une nouvelle forme de textualité dans ce schéma-là? Et c'est la proposition que je veux vous faire aujourd'hui. Donc, puis le dernier rapport, évidemment, c'est le rapport de l'interface à l'individu dans un rapport iconique et symbolique, bien sûr, avec l'écriture. On nous envoie une belle image, on nous envoie un beau titre de livre, bon, etc. Et donc, c'est là qu'on retrouve ce rapport-là iconique et symbolique, mais évidemment, à travers un schéma qui a évacuer le rapport politique, communautaire, négociable à travers la production du sens. Okay? Et donc, la proposition que je vais vous faire aujourd'hui, c'est pouvons-nous considérer ce moment-là comme une nouvelle textualité, c'est-à-dire à partir du moment où on va miner ces données-là et qu'on en produit du sens, n'y a-t-il pas là une nouvelle forme de textualité qui est opérée, une reconstitution, une recontextualisation à partir de certains éléments pour arriver à des informations, mais ces informations-là, on pourrait le changer par texte. Est-ce que ça ne serait pas là le lieu d'un texte? Et qu'est-ce qui serait opéré là par cette nouvelle textualité-là? C'est évidemment les algorithmes. Donc, est-ce que l'algorithme serait le lieu d'une production du sens? Et là, vous remarquez que je fais très attention de ne pas utiliser le mot « interpréter ». Mais c'est là, on frôle l'interprétation parce qu'on a un ensemble de données qui est interprétées, entre guillemets, par la machine pour nous produire des informations que l'on va considérer comme vraies. Okay? Et donc, le rapport de vérité associé à l'information, elle est très, très forte. Et quand on va du côté de la recherche, mais aussi du milieu des affaires, etc., ce que les données nous renvoient comme information, c'est vrai, c'est le réel. C'est comme s'il n'y avait plus de médiation entre moi et le monde. Voici ce qui se passe. Et non seulement voici ce qui se passe, mais voici ce qui va se passer. Parce que ce sont des outils principalement prédictifs. Ça va identifier des patterns pour voir qu'est-ce qui va arriver par la suite. Et donc, le rapport de vérité est très, très fort associé à l'information. Mais pourtant, on a automatisé une certaine forme d'interprétation. Et donc là, évidemment, ça pose d'énormes questionnements pour nous, en sciences humaines, en art, en littérature, parce que interpréter l'étymologie, c'est révéler. Et donc, là, on nous révèle la vérité à travers un processus d'automatisation où, je vous le rappelle, l'individu, tout ce qu'il fait, c'est des actions. C'est cliquer, peser, cliquer, bouger, se déplacer, etc. Et donc, on est en train de nous révéler le monde simplement dans nos actions. On nous renvoie des signaux. Okay? Donc, on peut se poser la question de ce rapport-là à l'information, mais aussi de ce rapport-là à un texte qui serait produit à partir du moment où vous acceptez avec moi, si je vous convainc, que ce n'est peut-être pas si vrai que ça. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du faux, et peut-être qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent biaiser les résultats, à commencer par les données elles-mêmes, à commencer par, juste d'un point de vue très, très pratico-pratique, travaillant sur le big data, la première étape à laquelle je me confronte, c'est nettoyer les données. Parce qu'on passe un temps fou à nettoyer les données, parce qu'il y a énormément de données qui viennent biaiser les résultats. Alors, déjà là, on a quelque chose de l'ordre du faux qui s'introduit et qui peut changer l'information, qui, ultimement, peut changer le texte. OK? Et donc, si on y va de manière synthétique, les données numériques sont une forme d'encodage à partir du langage informatique. Ces données-là sont décodés à partir d'algorithmes. Et donc, ces algorithmes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont automatiser la production du sens. Si on regarde l'algorithme, parce que présentement, pas d'un point de vue littéraire, mais d'un point de vue vraiment plus communicationnel, je m'intéresse aux algorithmes. Je trouve ça vraiment fascinant. C'est intellectuellement fascinant ce qu'est un algorithme. Et donc, je vous amène à la définition qui est donnée du grand Robert, qui nous dit: un algorithme, c'est une suite de règles formelles explicitées par une représentation de type mathématique et correspondant à un enchaînement nécessaire. C'est un calcul, enchaînement des actions nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. Okay? Donc, il y a une forme de mathématisation dans la production du sens et donc d'actions que l'on va traduire en données qui vont être opérationnalisées à travers des calculs mathématiques. On va arriver à produire un texte, ce qui est quand même assez fascinant parce que les algorithmes peuvent devenir assez autonomes. Et plus ça va, et je vais vous montrer, on tombe dans ce qu'on appelle l'apprentissage machine, le machine learning, les algorithmes apprennent par l'entrée de données. Okay? Et donc, ce que ça nous donne, évidemment, une nouvelle textualité basée sur une logique mathématique. Et donc, par des mathématiques, on va arriver à produire du sens, on va arriver à produire des textes. Là, je fais juste un petit bond en arrière parce que, cette logique-là, pour essayer de comprendre pourquoi on est arrivé à considérer comme vrai tout ce cheminement-là, faut remonter à loin, en partant avec Platon, chez qui c'est clair que nos sens nous trompent. Et donc, ultimement, il faut se trouver des outils intellectuels basés sur la raison pour dépasser les sens, parce que c'est les sens qui nous trompent. Donc, on remonte le temps, évidemment, on fait de grands bonds, mais cette idée-là que nous sommes faillibles et que par des outils rationnel, intellectuel, mathématique, scientifique, on pourrait dépasser ces biais-là subjectifs, ont pris l'ampleur à partir de la Renaissance et des Lumières, entre autres avec un penseur qui s'appelle Leibniz, qu'on connaît beaucoup pour les monades. Et moi, je me suis intéressée à lui beaucoup sur son approche du langage et de la langue en général. Et lui, il avait le rêve de retrouver la langue adamique, en fait. Pourquoi? C'est un étalon de mesure pour évaluer le vrai. Une fois que Dieu n'est plus l'étalon de mesure pour évaluer ce qui est vrai et ce qui est faux, la science a pris le relais et lui voulait, par la science, retrouver la langue de Dieu, donc ça aurait été parfait. Et son intuition, c'est lui qui a introduit le langage binaire en Occident. Donc, les Chinois l'avaient, bien sûr, mais c'est lui, il s'est dit, ultimement, ça serait merveilleux si on pouvait tout dire avec des zéros et des uns. Plus encore, il a vraiment développé la logique formelle et là, il est arrivé à développer ce qu'il a appelé la caractéristique, qui est un langage qui aurait dépassé toute subjectivité humaine et par lesquels les problèmes philosophiques auraient été résolus par des formules mathématiques. Donc, c'est plus discutable. C'est vrai ou c'est faux. Et donc, cette logique-là, en arrière de mettre sur un piédestal les mathématiques, demeure, et parmi la science, la reine des sciences, c'est évidemment les mathématiques, où il y a un rapport de vérité très fort qui est associé aux mathématiques. Et donc, j'ai pas de jugement de valeur, c'est pas pour dire c'est bien, c'est mal, c'est juste qu'on se questionne pourquoi, ultimement, dans la logique Big Data, on arrive à avoir un si grand rapport de vérité avec ce qui nous est énoncé, mais parce que ça passe par l'informatique, parce que aussi c'est issu de l'idéologie ou de la pensée cybernétique, etc. On remonte jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ultimement, on arrive à des textes que l'on considère nécessairement comme vrais, mais où on peut finalement se poser des questions et se dire, mais peut-être que non, peut-être que là, il y a des éléments fictionnels qui interviennent, et peut-être que même à l'intérieur de ce langage mathématique-là, il y a possibilité de produire de la fiction. Et donc, évidemment, probablement que les mathématiciens sursauteraient et que ça ferait scandale, mais je trouve que l'idée est quand même intéressante de se questionner, à savoir, si on peut considérer ces algorithmes-là aussi comme des producteurs de fiction basés sur une logique mathématique. Et donc, la proposition que je vous ai faite au départ, je vous la relis, elle va probablement être beaucoup plus claire. Malgré la grande valeur de vérité accordée aux résultats issus des technologies du Big Data, la mise en données du monde, puis les résultats de l'automatisation du traitement de ces données grâce aux algorithmes, nous racontent une histoire, en partie fictionnelle, sur notre rapport au monde, fiction qui, en retour, produit la réalité. Il reste juste le dernier petit bout à expliquer, c'est qu'en fait, ces outils-là, qui sont des outils prédictifs, fonctionnent sur un principe qu'on appelle la prophétie autoréalisante ou autoréalisatrice. Je prophétise telle chose et parce que je l'ai dit, c'est ce qui arrive finalement. Et donc, tous les systèmes de recommandation fonctionnent comme ça. Amazon est très, très fort dans le domaine, réussit à faire en sorte que vous achetez quelque chose que vous n'auriez même pas pensé à acheter au départ. Et donc, si ces textes-là sont produits à travers ce schéma-là, à travers des algorithmes, et qu'ils nous proposent une histoire en partie fictionnelle, et que dans un cadre de prophétie autoréalisatrice, cette fiction-là produit la réalité, on peut voir la force de ces outils-là à partir du moment où on pourrait s'en emparer, mais d'un point de vue artistique, peut-être plus commercial, mais essayer de voir s'il n'y aurait pas là des modes d'expression artistique qui deviendraient intéressants à travers l'utilisation des algorithmes. Ça, c'est d'un point de vue, disons, plus de la création, mais d'un autre point de vue, de reconsidérer la valeur qui est associée aux données, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste, etc., le replacer dans un contexte où, oui, il y a en partie une production fictionnelle. Je crois que ça viendrait aussi relativiser la tendance qu'on voit actuellement où il y a de plus en plus une datafication du monde et où tout le milieu des affaires avec ce qu'on appelle le BI et tout ça plonge et on est en train de prendre des décisions commerciales sur la base de résultats issus des algorithmes, mais socialement aussi, on s'en va vers ça. À un moment donné, les algorithmes vont nous dire si on investit dans l'école ou dans l'hôpital. Parce que ça va être ça qui va nous dire quelle est la vérité, qu'est-ce qui est... Et donc, à partir du moment où, comme société, on va de plus en plus se fier à ce genre d'outils-là, je pense que c'est important qu'on se questionne sur la part fictionnelle. On est en train de nous raconter une histoire et ces outils-là ne sont pas neutres, ils sont issus d'une idéologie en grande partie cybernétique et néolibérale, et on nous raconte une histoire néolibérale. Et donc, ça a des effets aussi sur le monde dans lequel on vit. Et donc, où ça devient un petit peu épeurant, je dirais, c'est quand on tombe dans des géants comme Google, qui s'est associé, qui a acheté le laboratoire de DeepMind, où DeepMind, ben c'est clair, leur mission « solve intelligence », OK? Wow! Et ensuite, ils vont nous dire « We combine the best techniques from machine learning and systems neuroscience to build powerful general-purpose learning algorithms. » Et qu'est-ce que c'est l'apprentissage machine?
C'est le début de Terminator.
Oui, vraiment. Tout à fait. Mais la science-fiction est toujours à la porte à côté, là, c'est clair. Et donc, ici, l'apprentissage machine, c'est qu'en fait, les algorithmes vont apprendre par les données qui rentrent, OK? Puis plus il va y avoir de données qui vont rentrer, plus ils vont s'adapter. Fait que dans un sens, il n'y a plus besoin d'humains qui vont intervenir pour venir... ça va être les données. Et évidemment, le fantasme en arrière de Big Data, c'est de recouvrir le monde en entier, d'avoir toutes les données. Et si j'ai toutes les données, bien, il n'y a plus d'erreurs possibles, vu qu'il va y avoir un apprentissage machine qui va être opéré. Okay? Ça, c'est le fantasme, mais il faut comprendre que la logique, elle est là, inhérente. Et c'est ça, le machine learning, c'est le fait que les algorithmes, par exemple, vont apprendre selon les données qui vont entrer. Et donc, on va résoudre l'intelligence, tout simplement, parce que, bon, évidemment, c'est aussi toute la recherche en intelligence artificielle et, bon, ce genre de... ce genre de recherche-là me fascine énormément. Il y a énormément de points extrêmement positifs qui en ressortent. Mais c'est sûr que quand on tombe dans des monstres tels que Google, où ils ont des laboratoires très secrets, où il y a des transhumanistes très affichés, dont Ray Kurzweil, qui travaille au sein de Google. Maintenant, on appelle ça Alphabet, mais on s'entend qu'Alphabet, c'est Google avec des labs. Ils ont un laboratoire de biotechnologie, évidemment. Et donc, et ultimement, ben, le rêve de ces transhumanistes-là, c'est que le corps devienne entièrement synthétique, et donc il n'y aurait plus de maladies, plus de morts, plus de... Bon, et on dépasserait toutes nos limitations parce que nous sommes faillibles, nous, humains, et donc on deviendrait plus fort, plus intelligent, plus en santé, plus bon. Bon, ça aussi, c'est le fantasme, mais revenons à notre textualité. Ben, c'est ça aussi qui est inscrit dans ces technologies-là. C'est aussi l'histoire qu'on nous raconte. Et donc, cette textualité-là, si on la considère comme ça, ben, on peut venir questionner l'histoire qu'on nous raconte. On peut la remettre en question, on peut la critiquer dans le sens de foucaldien du terme, c'est-à-dire de poser des questions à l'histoire qu'on est en train de nous raconter à travers ces outils-là. Et donc, ici, juste pour aller un petit pas en avant, je sais que je dépasse un petit peu mon temps, mais le Google DeepMind, ici, d'ailleurs, c'est assez... Il n'y a pas beaucoup d'informations, hein, c'est beaucoup des portes closes. Hein, alors, on ne sait pas nécessairement ce qui se passe, mais bon, vous pouvez imaginer que Google, c'est vraiment la machine à big data. Là, ils ont des données, c'est hallucinant. Alors, lié avec ce type de technologie-là, on commence à voir ce que la bête peut faire, peut réaliser. Et là, on est rendu à... Ici, il y a un article au bas à gauche, « Teaching machines to read and comprehend ». Ah ben là, moi, c'est sûr que ces médecines, là, ça me frappe énormément parce que là, on n'est même plus, là, je disais, interprétation avec des guillemets, mais c'est plus ça, là c'est plus juste interpréter, c'est lire et comprendre. Les machines vont comprendre. Alors, évidemment, je suis allée voir, essayer de comprendre ce qu'ils voulaient nous dire par « teaching machines to read and comprehend ». Et donc, ils vont nous dire, juste dans l'abstract, « teaching machines to read natural language documents remains an elusive challenge ». OK? Puis là, je vous amène juste à la dernière phrase. Ils vont nous dire « this allows us to develop a class of attention-based deep neural networks that learn to read real documents and answer complex questions with minimal prior knowledge of language structure. » Là, on n'est pas loin du rêve de Leibniz, d'être capable de résoudre des problèmes philosophiques, des questions complexes avec des machines qui comprendront, qui n'auront aucune idée de la structure du langage naturel, mais qui vont comprendre ce qu'ils lisent. Ça bouscule énormément, ce que l'on peut considérer comme étant de la lecture, comme étant de la compréhension, comme étant de l'interprétation. Et là, je vous ramène encore à l'étymologie de l'interprétation, c'est révéler. Et donc, ils vont nous révéler les réponses à des questions complexes sur le monde dans lequel on vit. Alors, encore une fois, si on considère comme vrai et tous les résultats qui sortent, on cède à la machine énormément de notre humanité, je le crois, mais aussi, si on réinjecte un peu de fiction, ben là, OK, on peut commencer à prendre certains éléments, parce que je travaille avec des outils de big data, et donc je fais des recherches avec ces résultats-là, et je considère ces résultats-là, mais je les considère pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils révèlent dans des balises, dans des cadres, etc. Mais tout ça pour revenir à cette nouvelle forme de textualité, si on pousse l'idée, ben voilà, nouvelle forme de textualité où les machines vont pouvoir produire, interpréter, lire, comprendre et arriver avec des textes à nous soumettre. Et donc, oui, voilà, je m'arrête ici sur cette proposition-là. Je peux remettre la proposition comme telle et vous écouter vos objections critiques. Merci.